Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
On les a vus lever les bras, une médaille autour du cou sur un podium olympique. Pour beaucoup de sportifs, c'est l'accomplissement d'une vie. Mais derrière, on n'imagine pas forcément comment ils ont vécu leur jeu. De la cérémonie d'ouverture au village en passant par leurs exploits, on a envie d'en savoir un peu plus sur ces sportifs. Je suis Adrien Yo et aujourd'hui dans Olympic Legend, je reçois trois légendes, une skieuse et deux skieurs, Florence Masnada, Franck Picard et Antoine Deneria. Salut à tous les trois.
Bonjour.
Hello. Salut.
Alors on parle de médailles olympiques, vous en avez décroché 6 en tout, hein, si j'ai bien compté, à tous les trois. La première question que j'ai envie de vous poser, elles sont où vos médailles? Flo, à toi l'honneur.
Alors moi, écoute, elles ne sont pas très loin parce qu'elles sont dans un petit sac. Bon, elles ne sont pas exposées, elles sont dans un petit sac parce que régulièrement, quand je fais des conférences, j'ai remarqué que les gens aimaient bien les voir parce que, à la différence des championnats du monde où c'est tout le temps un flocon, les Jeux, il y a un peu le... Comment dire, l'histoire du pays au jeu d'Albertville, c'était le cristal. À Nagano, c'était le bois sculpté, le bois pressé. Donc, du coup, en fait, elles sont différentes. Et donc, à chaque fois qu'il y a une histoire, et c'est là où on se rend compte que les gens, quand ils voient les médailles, ça, il y a encore des petites étoiles dans les yeux, comme pour nous. Donc, c'est aussi notre manière de partager avec les autres.
Franck ?
Eh ben, moi, elles ne sont pas loin non plus. Elles sont situées dans le grand local de location de ski. Elles sont dans une vitrine. Elles sont en compagnie d'autres choses, des médailles de ski de fond et plein d'autres choses. Mais ces trois-là sont particulières, effectivement. Ce que dit Flo, c'est vrai. Elles sont caractéristiques. Celle d'Albertville avait du cristal. Celle de Calgary avait une coiffe d'Indien avec plein de sport derrière. Et donc, elles sont là et... Ça fait parler, et puis en même temps, elles ne sont pas très loin de moi, donc ça me conserve dans l'actualité.
Ce qui est beau, c'est que tu en as trois couleurs différentes, tu ouais. peux les comparer, tu peux les admirer.
Elles vieillissent différemment les unes des autres, celle qui est en bronze, elle est déjà bien abîmée.
Comme quoi, alors Antoine, il n'a pas ce problème-là, parce que lui, elle est en or, sa médaille. Est-ce que ça se conserve bien, l'or?
Alors moi, je suis le petit joueur d'étrage, j'en ai qu'une de médaille. Alors... en fait, elle est derrière, elle est là.
Ah oui.
Puis je suis dans mon showroom, enfin mon entreprise de fabrique de ski, et donc je l'ai exposée dans mon showroom, voilà. Et bah moi, alors je sais pas si elle devait sûrement raconter une histoire italienne, mais en fait c'est un espèce de CD rond avec un trou au milieu. Il n'y a pas vraiment de signe distinctif de l'Italie. Et bah, c'est vrai que c'est un objet particulier que j'ai fixé là. Et c'est vrai que c'est intéressant de le mettre en valeur. Je l'ai mis il n'y a pas longtemps. Parce que c'est vrai que comme Flo, quand je fais de temps en temps des conférences ou des choses, on me demandait de l'amener. Mais là, je l'ai vissé contre le mur. Donc, je voyage beaucoup moins avec. Et puis, bon, elle vieillit. Oui, elle vieillit aussi. Mais c'est surtout, moi, le ruban qui a vieilli. Parce que ben, comme on a fait quelques célébrations et je l'ai fait un peu tourner avec du champagne, etc. Donc, j'ai lavé le ruban, il est un peu délavé. Mais bon, au moins, il a une histoire, il a vécu.
Je crois que le CIO a des modèles pour les remplacer. Je sais qu'il y avait une histoire, s'il y a certains sportifs qui avaient perdu leur médaille, et il était possible de redemander une médaille au CIO. Alors peut-être que les rubans, ça change aussi. Après, j'imagine qu'elle a une histoire et qu'on l'a gardée dans son jus.
Celle de remplacement, ça ne sera jamais celle qu'on a eue sur le podium. Donc, je n'ai pas vraiment envie de la remplacer.
Je me doute bien. Entrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, pour évoquer ces souvenirs olympiques. Voilà, ce podcast, on le découpe en trois parties. On va commencer par l'expérience olympique, parce que bah, voilà, c'est ce qu'on a envie de savoir. On a envie que vous nous racontiez un petit peu comment ça s'est passé pour vous. En préparant cette émission, rapidement, il y a quelque chose qui m'est apparu naturel, c'est que Flo et Franck, vous êtes les deux à avoir fait une Olympiade ensemble, 92 à Albertville. Antoine, il est arrivé après.
Jaune.
C'est très bon. Et Albertville, c'est vrai qu'on dans l'imaginaire du ski, c'est quelque chose qui a énormément marqué les gens. Quel souvenir vous avez d'emblée comme ça quand on pense à Albertville 92?
La cérémonie d'ouverture. Ouais. Moi, je crois que c'était vraiment incroyable. Moi, c'était mes premiers Jeux en France. Je me rappelle très bien d'être rentrée pas très loin de Fabrice Guy, qui était notre porte-drapeau. On était tous avec ces tenues de cosmonautes un peu, qui étaient assez incroyables. Mais voilà, cette fierté de rentrer dans le stade derrière le drapeau. Et puis, on avait eu la chance que Jean-Claude Killy, qui avait été athlète, il crée la cérémonie avec les athlètes pas... Enfin, on pouvait la voir, quoi, la cérémonie. On a pu assister à une grande partie de la cérémonie, alors que d'habitude, bah, les athlètes, on attendait un peu dans les... Ils attendent un peu dans les gymnases ou à l'extérieur, et puis ils arrivent à la fin. Et là, en fait, on a pu assister à une cérémonie, la cérémonie de Philippe de Coufflet, avec des... Enfin, c'était un cirque incroyable, avec des artistes. Enfin, moi, j'en ai... Ouais, c'était bluffant. C'était bluffant. Et déjà lors de cette cérémonie, beaucoup d'émotions.
Franck, je t'ai vu acquiescer.
Ben, moi, je dis exactement la même chose. On ne s'est pas concerté, mais c'est vraiment cette cérémonie qui, à la fois, m'a propulsé dans les Jeux et nous a fait rêver tous, parce que de Coufflet a sorti un truc qui sortait de l'ordinaire et qui est devenu un standard aujourd'hui, avec des choses futuristes, avec une préparation. Alors moi, je ne l'ai pas vécu dans le stade, puisque je courais le lendemain, mais j'étais à Val d'Isère devant ma télé. Et c'est vraiment ce moment-là qui a lancé ces Jeux. Bien avant nos médailles ou quoi que ce soit, c'est vraiment ce moment-là qui a fait que ça a démarré d'une manière complètement dingue et géniale. Ouais, quel artiste, et puis surtout un moment exceptionnel entre tous, avec les personnalités, avec le président, tout était parfait, vraiment.
Antoine, toi, tu te souviens des cérémonies, tu en as vécu deux, Salt Lake et Turin, 2002 et 2006.
Ouais. Moi, c'est pareil que Franck. En fait, ouais. Je les ai vécues à la télé depuis ma chambre du village olympique, parce que à Turin, la descente était le surlendemain et j'avais le dernier entraînement le lendemain de la cérémonie officielle, enfin la cérémonie d'ouverture. Et donc, on n'est pas allé à Turin faire la cérémonie d'ouverture, je l'ai regardé à la télé. La particularité, c'est que en fait j'ai même eu moi ma médaille dans l'air d'arrivée de la descente. Donc en fait, au Jeu de Turin, j'ai pas mis les pieds à Turin, je suis resté à Sestrières pendant 15 jours et parce qu'on avait un mini village là-haut, un mini village olympique, j'ai eu ma médaille là-haut, donc j'ai, pour moi, les Jeux olympiques de Turin, c'est avant tout Sestrières. Et il y a eu évidemment la cérémonie d'ouverture que j'ai suivi à la télé, qui était un grand moment, mais du coup, le fait de ne pas y être allé, c'est vrai que pour moi, ce n'est pas le moment le plus qui m'a marqué le plus. Après, ouais, c'est peut-être le lendemain, quand il y a eu les premières épreuves. Je me souviens bien de la médaille de Sandra Laoura, qui a fait la première médaille au Jeux de Turin, médaille de bronze en ski de bosse. Ouais. Et ça a été un peu le moment où on se dit, ça y est, ça a commencé, il y a des épreuves, il y a une première médaille française. Moi, c'était le dernier entraînement de la descente et c'est là où on s'est dit, ça y est, on est dedans, quoi, c'est parti. Et oui, le fait d'avoir vu la cérémonie de l'ouverture à la télé, puis le lendemain, les premières épreuves à la télé, évidemment, parce que je n'étais pas sur les stades olympiques. Et puis le moment du dernier entraînement, on sent qu'il y a quelque chose qui commence ça commence, quoi. Puis la tension monte, la tension des journalistes, de tout le monde monte. Donc là, on sent que ça commence. Ouais.
Et là, ça donne, j'imagine, un surcroît de motivation, parce que le lendemain, tu décroches l'or. Et moi, il y a un autre truc qui m'a marqué quand j'ai préparé cette émission. Est-ce que tu sais que le meilleur souvenir de Flo en tant que spectatrice, elle nous l'a raconté récemment dans un sujet en amont des Jeux, c'est ta médaille d'or, parce qu'elle était dans la cabine de commentateur d'Eurosport. Et quand on revoit les images, on l'entend crier au moment où tu franchis la ligne d'arrivée. Et là, il y a une joie immense. On te voit tout de suite lever les bras au ciel. Tu comprends que voilà, là, c'est exceptionnel.
Ouais, c'est sûr que c'est un moment que j'oublierai jamais. Enfin, je pense qu'on dira tous les trois la même chose. C'est un moment qu'on n'oubliera jamais, qui est gravé en nous. Et c'est un moment exceptionnel. Mais c'est vrai que pour en revenir au dernier entraînement, le premier jour des Jeux Olympiques avec la médaille de Sandra, moi, c'était mon dernier entraînement. C'était un peu particulier parce que c'était à ce moment-là, la règle, c'était que C'était l'ordre inversé du classement d'entraînement. Le celui qui gagnait l'entraînement partait 30 et celui qui arrivait 30e partait 1.
Et tu gagnes l'entraînement.
Et voilà, et en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Parce qu'avec les autres entraînements, enfin, on analysait le meilleur moment pour avoir le meilleur dossard, a priori, pour gagner la course. On avait imaginé que pour gagner la course, il fallait partir entre 10 et 15. Et on essayait un peu de jauger la descente, enfin, l'entraînement, pour essayer de viser un dossard, mais c'est ce qui est hyper compliqué à faire. Et puis moi, je m'étais dit, c'est quelque chose que je ne savais pas faire, enfin, c'était vraiment compliqué. Et je m'étais dit, tu fais l'entraînement du mieux que tu peux, enfin à fond. Puis si tu sens que tu vas vite, tu freines un peu. Puis si tu fais des fautes, tu freines pas trop, quoi. En fait, j'avais eu l'impression de faire un entraînement moyen. J'ai pas osé vraiment freiner. Et puis je me retrouve à gagner l'entraînement. Et là, pendant quelques secondes, je me suis dit, je suis merde, t'as tout gâché, quoi. Enfin, c'est nul. Enfin ça. Et puis après, tout de suite, je me suis remis dans quelques minutes après. Je me suis dit, après tout. J'avais le 23 à l'entraînement. Je me suis dit, après tout, maintenant, les gens savent que les autres, la pression est sur les autres. Ils savent que tu es en forme. Ils savent que tu es en train de devenir un favori. La pression est sur eux. Et puis, demain, tu vas leur montrer que 23 ou 30, c'est pareil. Ça va le faire quand même, quoi. Donc, j'ai transformé le truc en me disant, c'est un signe. Et le lendemain, c'était un dimanche. Il allait faire beau. Je partais 30. Je m'étais dit, après tout, tu vas arriver en bas, tu sauras que si tu es allé vite, si tu arrives avec le 1, tu sauras que tu as gagné, quoi. Donc, j'avais retourné le truc dans l'autre sens en me disant que c'était en train de s'écrire du meilleur scénario possible et que ça allait le faire. Et c'était un peu spécial, quoi. Et c'est vrai que le dernier entraînement, c'était déjà un peu la course et c'était un peu, on rentre dedans, quoi. C'est vrai que c'est chouette. Ouais.
Non, mais en plus, cette course, elle est incroyable parce que tout le long, à tous les intermédiaires, il est devant. Il y a une vidéo d'ailleurs qui tourne sur YouTube avec les commentateurs autrichiens qui, dès qu'ils passent le premier intermédiaire, ils commencent à dire il est devant. Au deuxième, c'est pas possible. Et en fait, ils sont désespérés. Et en plus, ils gagnent avec plus de 7 dixièmes d'avance. La vidéo, elle est incroyable parce qu'ils survolent la course. Et c'est vrai que moi, j'étais dans la cabine derrière, il y avait Alex et c'est pas moi. Toi qui commentais. Et toi, c'est ça qui est génial. On peut pas retenir ces émotions, quoi, parce que dans le dernier saut, je me rappelle, là, on est sûr qu'il va gagner, parce que bon, des fois, on a un peu peur de crier avant la fin, mais là, on est tous debout dans la cabine et c'est un moment. Moi, j'ai encore les frissons, quoi.
Et puis on l'a senti tout de suite arriver dès les premiers mètres. Il était dedans et trajectoire était nickel. Les petites fautes qu'il faisait, ça le propulsait encore plus vite. Et avec Alex, on l'a tout de suite senti. On s'est dit, mais il va vers l'or, il va gagner. C'était d'une évidence et on s'est régalé à te commenter. C'était génial ce moment-là. Ouais.
Entre parenthèses, je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais moi, c'est vrai que mon souvenir des Jeux de Turin, il est vachement lié à Franck parce que il commentait la course. Et à chaque fois que, évidemment, de temps en temps, on me repasse ou je revois la vidéo. Avec les commentaires de Franck derrière, ça fait complètement partie du truc. Et c'est vrai que moi aussi, d'entendre Franck crier, voire pleurer en commentant ma descente à la fin, ça me met des frissons et une certaine fierté. Parce que Franck, c'est les Jeux de Calgary, les Jeux de Albertville. Moi, j'avais Albertville, j'avais 16 ans. Et je me souviens très bien où j'étais. Alors, je n'étais pas à Val d'Isère quand il a gagné son titre, sa médaille d'argent. On était dans le Grand Massif à Flaines. On avait arrêté l'entraînement pour regarder la descente. Donc on était à Flaines au club des sports devant la télé et je me souviens très bien de ça. Et ça m'a fait. Moi c'était ma première saison au FIS. J'avais 16 ans et je me souviens de ce moment de médaille d'argent de Franck à Albertville. C'est des choses qui marquent et on se dit j'aimerais bien. Enfin, si un jour ça pouvait être moi. Enfin c'est un rêve quoi. Et c'est trouvé que quelques années plus tard, c'est moi qui étais dans le portillon de départ et c'est lui qui commentait. Et donc, c'est l'histoire est chouette. Quoi. Ouais.
Franck, toi, du 92, la dernière de tes 3 médailles, tu en gagnes 2 autres 4 ans plus tôt à Calgary et tu deviens le premier champion olympique de Super G. Parce que le Super G, c'était une discipline nouvelle qui a été ajoutée au programme olympique justement à cette Olympiade-là.
Ça m'arrangeait bien.
Et donc, tu étais le premier skieur français à décrocher une médaille après Jean-Claude Killy. C'est-à-dire qu'il y avait une attente et là, tu viens décrocher.
Ça a été un peu l'histoire de ma carrière 20 ans après, que ce soit en descente, en super G, même en géant. J'ai toujours été 20 ans après la grande époque Killy, Duvillard, Pence et toute cette équipe qui me fascinait. Et donc, je suis le lien entre ces deux générations. Et puis, je l'expliquais l'autre jour à Flo, je suis très content parce que derrière moi, on n'a pas eu 20 ans à attendre pour obtenir des titres olympiques. Et ça, c'est vraiment chouette parce que de vivre ça, de partager ça avec les nouvelles générations, c'est des moments tellement forts. Et je sais par quoi il est passé, je sais comment il a obtenu cette médaille. Et voilà, donc on est forcément touché quand ça arrive. Et oui, moi, c'est l'histoire de ma vie, 20 ans après.
Et toi, comment tu l'as ressenti ? Alors, Antoine racontait un petit peu les sensations. Toi, cette médaille olympique, c'est vécu comme un soulagement ? Tu le dis beaucoup 20 ans après. Il y avait une attente énorme. Comment tu étais à l'époque ?
Alors, ça dépend. À Calgary, c'était un monde purement sportif quasiment. C'était des jeux à l'autre bout du monde, donc il pouvait bien se passer n'importe quoi, j'imagine, peu importe. Le ski français n'était pas au mieux. Le ski féminin fonctionnait, mais les garçons, on n'était pas très, très brillants. Donc, j'y vais franco parce que c'est une descente qui était vraiment dans mes cordes, quoi. C'était quelque chose de rapide, technique, engagé. Avec très peu de points de glisse. Donc voilà, j'ai joué tout le long comme ça. Si je me souviens bien, quand j'arrive en bas, je suis content parce que c'est une médaille. Donc forcément, tu rêves de ça depuis tout gosse et c'est fabuleux. Mais je suis un peu frustré parce que je tenais une médaille d'or au bout des spatules.
Là, tu décroches le bronze sur la descente. Hein, pour être.
Ouais. Mais devant, il y a deux Suisses, il y a Peter Müller et Zurbriggen. Franchement, ils n'ont pas fait quelque chose d'extraordinaire ce jour-là, mais c'est moi qui ai été un peu moins bon sur le sommet. Il y avait des conditions météo qui étaient terribles. La piste avait craqué tout le sommet. On était dans une barre rocheuse et vraiment, c'était atroce. Donc, après le Super G arrive, là, je suis aussi encore un peu frustré à l'arrivée parce que je me dis, ouf, c'est une victoire presque au rabais parce que Wassmeyer enfourche la première porte au Super G, donc ça arrive jamais. On voit Alberto Tomba qui tombe également, Zurbriggen qui passe un peu à côté de sa course, et donc oui, je gagne, je suis content parce que c'est vraiment un rêve et c'est exceptionnel. Mais le plus beau moment, c'est Albertville. Tu traverses des moments de doute, tu finis 70e et puis tu remontes la pente et tu te transcendes ce jour-là, tu vas chercher quelque chose avec tes tripes, avec ton savoir-faire, avec ta maîtrise et avec le partage du public. Donc là, c'est le plus beau moment de ma carrière, c'est celui-là, sans doute. Après, l'événement sportif en lui-même, évidemment, la médaille d'or, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc ça change beaucoup de choses.
Pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément écouté Belle Trace, parce que je vous conseille d'écouter Belle Trace avec Flo qui reçoit Franck, tu racontes justement ce moment à Albertville où un mois avant Albertville, tu es au fond du saut, tu termines à 6 ou 7 secondes des dernières courses et tu fais appel à un préparateur mental qui te remet dedans. C'est pour ça. Finalement décrocher l'argent dans la descente. Et c'est effectivement ce moment-là que tu nous racontais là en disant tu as réussi à reprendre le dessus.
C'est ça, tu te reconstruis parce que la pression est tellement énorme. De Calgary, j'étais le seul Français à ramener des médailles, tous sports confondus. Donc tu te retrouves avec mes 70 kilos au départ des Jeux en France. Forcément, tu doutes un petit peu et la pression était tellement énorme, j'étais incapable de surmonter ça. Donc, on a fait de la préparation mentale. Et puis, j'ai vu aussi que l'équipe fonctionnait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas tout Bianchi à l'époque qui gagnait en slalom. Il y avait, l'équipe fonctionnait bien. La preuve, on a eu plusieurs médailles et l'équipe s'est très, très bien comportée. Donc, j'étais finalement d'abord un peu soulagé parce que le sport français allait être bien représenté sur ces Jeux. Et puis ensuite, ça me donnait la possibilité de faire ce que je voulais. Et c'est ce qui s'est produit.
Alors, vous avez un autre point en commun, en plus de vos médailles, c'est d'avoir remporté une de vos médailles, parce qu'il y en a qu'on a remporté plusieurs, hein, il faut le dire, c'est d'avoir remporté en descente, la discipline reine. Flo, médaille de bronze à Nagano 98, 6 ans après le bronze en combiné. J'imagine que gagner une médaille quand même en descente, ça fait quelque chose quand même. C'est comme presque c'est une médaille aux 100 mètres au JO d'été. Enfin, on est là, on rigole pas, quoi. On parle de la descente olympique.
Oui, oui, clairement, clairement pour moi, c'était important. Enfin, cette médaille, elle a une autre saveur sportive, parce que je ne renie pas du tout mes résultats et mes podiums au combiné, mais voilà, c'est la crème de la crème sur la descente. En plus, moi, je suis sur le podium avec Katia Seisinger, qui était déjà championne olympique en titre, et Pernilla Wiberg, qui sont des filles qui ont gagné la Coupe du monde au général, qui ont tout gagné. Et voilà, c'était super pour moi. Je savais que c'était mes derniers jeux aussi. J'avais plutôt fait une bascule de la technique à la vitesse, sans forcément me dire que ça allait être facile. J'avais géré toute l'attente, parce qu'entre le premier jour d'entraînement et le jour de course, on a eu 9 jours. Quoi. Tous les 2 jours à Nagano, c'était annulé. Il tombait 50 cm de neige, il fallait l'enlever, il fallait remettre.
Ici Nagano.
Ici à Nagano. Et donc, c'était compliqué à gérer, surtout pour moi qui n'avais pas du tout de patience. Et finalement, j'ai bien réussi et faire cette médaille au jeu avec Pernilla et Katia Seisinger. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand on est monté sur le podium, on avait c'était très cadré au niveau du CIO. On est obligé on a un temps, quoi. En gros, on a 3 minutes sur le podium, l'hymne, et puis après, hop, dégager, parce que derrière, il y a le podium du saut et le podium de je ne sais plus quoi. Et en fait, nous, on en profitait, on se connaissait bien, et on était là, on est allé taper dans les mains du public, et puis la petite japonaise qui était au protocole, elle nous tire un peu la manche en disant non, mais vous, c'est fini maintenant, il faut arrêter, ça suffit, il faut descendre du podium. Donc on avait bien rigolé là-dessus. Et c'est aussi des moments un peu particuliers. Oui.
Quel goût justement elle a cette médaille. Tu disais voilà, partager le podium avec deux grandes championnes, c'est qu'est-ce qui prend le dessus? C'est vraiment le plaisir de finir troisième. Je dis ça parce qu'il y a des sports, notamment le hockey sur glace, pour prendre une discipline, où la médaille d'argent, ça termine par une défaite. Vous, en ski, c'est un classement, c'est une course, donc on arrive en bas, il n'y a pas cette sensation de défaite. Est-ce que je me trompe? Comment vous les avez vécues, vos médailles?
Moi, j'ai fait 3 médailles de bronze dans ma carrière, 2 où j'ai eu une championnat du monde, donc c'est toujours mieux que les 4e place ou les 5e place, hein, quoi qu'il en soit. Après, Franck le disait, en descente, il était un peu déçu de sa 3e place à Calgary, mais après coup, ça n'a rien à voir, hein, finalement, une médaille de bronze ou une 4e place au jeu. Moi, il y a Mélanie Suchet qui fait 4e en 100e à Nagano. Oui, moi, enfin, quand on dit est-ce qu'une médaille change la vie, oui, je pense que moi, mes médailles olympiques ont changé ma vie, ont changé mon parcours derrière. C'est un peu le Graal, une médaille olympique pour nos sports qui ne sont pas vraiment des sports pro, qui sont des sports semi-pro ou amateurs, enfin plus ou moins amateurs. Ça nous ouvre des portes. Alors après, si on n'assure pas derrière, la porte, on la prend dans le nez, hein, comme en ski. Mais oui, ça ouvre en tout cas d'autres opportunités. Et puis. Et ça a permis aussi d'assouvir notre passion. Donc là, on est. Ouais, moi, je suis fier de ça. Après, ça ne s'arrête pas à ça. Notre personne et notre personnalité ne s'arrêtent pas à ça. Mais c'est quand même plus facile avec des médailles olympiques. Ouais. Quand même, la vie.
Antoine, toi, tu. Évidemment, l'or, c'est un
coup particulier. Moi, je ne peux pas comparer. J'ai qu'une médaille et j'ai qu'une couleur.
Non, mais tu as été blessé la saison d'avant. Ouais. Est-ce qu'il y a un goût de revanche? Il y a un goût d'accomplissement? Quel goût elle a eu, cette médaille d'or?
Ouais, c'était un peu, enfin c'est pour moi c'était, je vais encore en parler maintenant, c'est un truc d'exceptionnel où j'ai des fois je me dis mais c'est incroyable mais ouais, ce qu'il y a c'est que moi je me blesse au genou un an avant sur la piste du Candard à Chamonix, je me fais opérer des croisés 13 mois jour pour jour avant les Jeux Olympiques. En fait le truc classique, revenir d'un genou, la rééducation. J'ai rattaqué à skier 6 mois et demi après, au mois de juillet. Et puis après, quand on sait tous les trois, je pense qu'on a aussi un point commun, je pense que c'est les genoux. c'est dur, quoi. Et ce qui est un peu incroyable, c'est que quand je suis tombé à Chamonix un an avant, à ce moment-là, j'étais bien. Ça faisait 3 saisons que je skiais pas mal. J'étais dans les 5-6 meilleurs descendeurs du circuit. Je gagnais des fois des courses à Val Gardena ou à Kuitfeld. Je faisais de temps en temps des podiums. Donc, quand je me blesse, j'étais vraiment bien. Je jouais avec les Autrichiens, avec Valschhofer, avec Eberharter. Enfin, ça allait bien. Et en fait, j'arrivais à... Ce qui est un peu étrange, c'est que je m'étais dit, voilà, j'arrivais à 30 ans. Quand je me suis blessé, j'avais les championnats du monde de Bormio qui arrivaient en 2005. Et puis derrière, il y avait les Jeux de Turin et puis les championnats du monde dorés. Et je m'étais dit, tu arrives à 30 ans, il faut aller chercher une médaille sur un de ces événements pour un peu mettre la cerise sur le gâteau, avoir une médaille à la fin, quoi. Et en fait, quand je suis tombé à Chamonix, j'ai eu le réflexe de... Donc, c'était le dernier entraînement avant la course. Et il y avait mon entraîneur, mon père, qui était venu voir l'entraînement. Et moi, j'étais dans la barquette avant que l'hélicoptère m'emmène à l'hôpital pour faire... Enfin, à Sallanches, faire les examens. Et ils avaient l'air dépités. Et je leur ai dit, bah, vous inquiétez pas, je ne serai pas champion du monde, mais je serai champion olympique. Et en fait, je suis resté dans ce truc-là un an avant. Enfin, je me suis mis dans... Et en fait, toute ma rééducation, et puis après les premiers stages, toute la préparation avant les Jeux, c'est comme si je m'étais mis dans un peu ce tunnel, avec le bout du tunnel, c'est le portillon de départ de Turin, de Cesrières, quoi. Et donc, puis le début de saison, il y a des fois sur les stages, quand j'ai rattaqué à skier, j'ai dit, là, j'y arriverai. Enfin, il y a des moments où on se dit, on n'y arrivera pas, et le genou, il va lâcher. Enfin, on a des douleurs, enfin, ça fait mal. Enfin, des fois, c'est dur, et puis on tient le coup, on passe des caps, ça va de mieux en mieux. Et puis, bon, j'attaque la saison avec des hauts et des bas. Je rattaque direct en gagnant le premier entraînement à l'Écluse. J'avais tellement envie de skier puis de montrer que j'étais de retour. Voilà, et puis derrière, c'est un peu, je me suis par moment servi de... J'avais lu évidemment des choses que Franck avait dit au moment d'Albertville, d'Edgar Gropion, par rapport à comment il avait vécu les Jeux pour d'Albertville, etc. Et moi, donc, j'avais eu un début de saison un peu compliqué avec des hauts et des bas. Des fois, je faisais des bonnes portions, mais des fois, j'étais 50e. Deux semaines avant Turin, je finis 30 ou 40e à Wengen. J'avançais pas, je savais pas pourquoi. Voilà. Et puis, je me suis remobilisé. Je me suis dit, enfin, faut pas lâcher. La course à gagner, c'est dans 15 jours. Et je disais à des journalistes, vous inquiétez pas, dans 15 jours, je serai prêt, quoi. Et puis, je m'étais mis dans ce truc-là. Et en arrivant à Turin, en fait, au village, j'avais énormément travaillé à base de visualisation. J'avais repris on avait fait la descente de Cesrières en finale de Coupe du Monde 2 ans avant. Et en fait, j'avais repiqué les images des trois premiers plus ma descente. Et j'ai visualisé la course, toute ma rééducation à Hauteville, dans ma chambre de réduc. L'après-midi, j'étais sur mon ordi, je regardais la course, je la visualisais. Et quand je suis arrivé à Turin, c'est comme si je l'avais fait des milliers de fois. Déjà, j'ai l'impression d'être chez moi sur ma piste. Et tout s'est un peu déroulé comme si c'était prévu, quoi. Et après, bon, je vais trop parler, mais et c'est vrai que quand ça réussit, le matin de la course, on sent qu'on est capable, que ça peut le faire. Et je me sentais vraiment capable de faire le coup, quoi. Et au moment où j'arrive... Et puis, je vois premier champion olympique. Enfin, c'est à la fois une énorme délivrance de dire je l'ai fait, j'ai réussi, je l'ai fait. Et puis, une espèce de revanche sur la blessure, sur le genou, d'avoir réussi d'avoir réussi à revenir, quoi, tout simplement. Et puis, en fait, en quelques secondes, on a toute sa carrière qui repasse, toute un peu sa vie, les bons moments, les mauvais moments, qui nous a soutenus, qui nous a pas trop soutenus, enfin tout ça un peu revient en tête et c'est un
on
peu
des noms.
C'est à la fois une énorme joie et une revanche, c'est un peu tout, quoi. Et c'est énorme, quoi. Et je me souviens le lendemain matin, donc moi j'ai eu la chance d'avoir ma médaille dans l'air. Je pense que c'est une chance d'avoir eu la médaille dans l'air d'arrivée parce que du coup il y avait pas du tout de timing, on a fait un peu n'importe quoi en fait parce qu'il y avait pas d'autre podium après. Donc, ça a pris le temps que ça a pris. Et puis, il y avait deux quarts de fan club, ma famille, mes amis qui étaient à Cesrières. Ils ont vécu une journée incroyable. Ils sont partis de Morillon le matin. Ils sont allés voir une descente à Cesrières. Ils m'ont vu gagner. Ils ont vu le podium olympique, l'hymne. Ils ont tout vu, quoi. Et donc, c'est un moment qu'on n'oubliera jamais, quoi. Et le lendemain matin, je me souviens avoir tapoté sur la table de nuit pour voir si la médaille était bien là, si je n'avais pas fait un rêve. Et je me vois encore me brosser les dents, éclater de rire. Et, tu as fait le coup, quoi. Comme le sale gosse qui a fait le coup, qui les a tous battus, alors que ce n'était pas moi le grand favori. C'est, je gagne devant Valschhofer, qui, cet hiver-là, gagne le général de la Coupe du Monde des descentes. Kernen, qui avait fait déjà des podiums au chemin du monde de Cesrières. Donc, je gagne devant des gros cadors. Donc, j'étais un peu le sale gosse qui avait fait le coup, quoi. Le mauvais coup aux autres.
Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que aussi vous êtes les cadors. Hein. Il n'y a pas d'histoire. Hein. Vous êtes les legends. Il y a pas de... Tout le monde ne gagne pas une médaille olympique, voire deux, voire trois, comme Franck ou Flo. Franck, toi des trois, donc tu nous as déjà un petit peu parlé de la médaille à Albertville, qui avait finalement celle qui a le plus de goût, si on doit parler comme ça.
C'est ça.
Et c'est marrant parce que c'est pas une médaille d'or. C'était voilà ce que tu racontais, ça vient terminer la reconstruction que tu avais entamée un mois plus tôt, quoi.
Ouais, c'est pour 5 centièmes, c'est finalement peu de choses quand ça arrive. C'est vrai que je me dis, mais c'est un miracle d'être ressuscité là sur cette piste. Donc on l'accepte et on en est tellement heureux que voilà, c'est une médaille d'argent. Mon père disait qu'une médaille de bronze, c'est mieux que quatrième, mais c'est moins bien que deuxième. Donc voilà, c'est bien résumé. Et pour la deuxième, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise médaille. Il y a des médailles. Et effectivement, quand tu gagnes l'or, c'est une reconnaissance indiscutable. Après, le fait d'être sur un podium olympique, c'est ce à quoi je courais depuis tout gamin. Donc, non, il n'y a pas de goût amer derrière. Il y a à chaque fois un immense plaisir, un travail accompli. Il y a aussi le partage avec les autres. Dans ma carrière, j'ai été beaucoup secondé avec le groupe des Top Gun, avec les coachs, avec une fédé qui se reconstruisait en même temps que moi. Donc, non, ça a été à chaque fois des tellement bons moments que voilà, ça te fait en tout cas oublier tous les mauvais.
on va passer à la deuxième partie, si vous voulez bien, pour nous faire vivre un peu les Jeux de l'intérieur, parce que ce que vous nous avez raconté, c'est génial, ça nous a donné des frissons de revivre ces moments, ces médailles, ces podiums. Mais ce qu'on aime bien aussi, c'est de voir un peu comment ça se passe de l'intérieur. Souvent, je sais que les Jeux d'été, quand on a fait Olympic Legend avec des handballeurs, des nageurs, ils prenaient le temps d'aller voir d'autres disciplines. Les Jeux d'hiver, c'est possible ça ou c'est compliqué de s'imprégner un petit peu de l'esprit des Jeux?
Je vais commencer.
Vas-y.
Vas-y.
Vas-y, Franck.
J'ai eu la chance de participer à pas mal de Jeux olympiques depuis Sarajevo, Calgary, Albertville, Lillehammer. Et donc... Dans aucun de ces jeux, j'ai eu la chance d'aller voir autre chose. Je suis resté concentré d'abord sur mes épreuves, concentré sur mon sport. Et puis, vivre des jeux de l'intérieur, c'est vraiment se focaliser, être dedans sa course. Et donc, moi, je n'ai pas eu la chance de voir ça. Par contre, j'ai été invité à Séoul en 88. Et là, mais alors, je me suis gavé de sport dans tous les sens. Je crois bien que je n'ai pas dormi pendant les 15 jours parce que j'allais de partout voir ces sportifs, voir ces autres mutants, là, les athlètes, les nageurs, les handballeurs, les basketteurs. J'ai vécu, mais... Donc, je pense qu'il vaut mieux être spectateur des Jeux Olympiques, finalement.
Flo, toi aussi, t'es spectatrice depuis plusieurs années aussi en accompagnant le CNOSF.
Oui, exactement. Depuis, moi aussi, j'ai eu la chance après ma médaille de 92, on a été invité aux Jeux de Barcelone. Donc, j'avais passé 3 jours aux Jeux de Barcelone. Et ensuite, donc en 98, lors d'une réception, je crois que c'était à l'Elysée, j'ai dit, tiens, les médaillés de 98, on va être invités quelques jours à Sydney pour 2000. Et puis finalement, j'ai eu l'opportunité d'aller en tant que bénévole au Club France, gérer les relations avec les athlètes et l'accès au Club France. Et puis, depuis, j'ai mordu au truc et j'ai fait presque tous les jeux en travaillant avec le comité olympique, soit en tant que bénévole, soit sinon après en tant qu'attaché de presse. Et ces deux derniers jeux, donc à Tokyo et puis ceux d'avant à Rio, j'étais carrément au village pour gérer les relations presse. Et là, moi, je suis…
Comme dit Franck, c'est plus facile d'être spectatrice.
Pendant
tes jeux, les jeux auxquels tu as participé, tu as pu en profiter
très peu. Ouais. Non, alors déjà, les jeux d'hiver, c'est particulier par rapport aux jeux d'été parce que c'est en février, c'est au milieu de notre saison presque. Donc, on a la saison qui continue derrière et nous, on a les points qui comptent pour la Coupe du Monde, pour les dossards. Donc, ce n'est pas évident de dire, en fait, tu finis ton épreuve, souvent tu rentres. Quoi. Toutes les fêtes, c'est souvent un peu plus tard. Et après, on n'a pas trop le temps. Et souvent, on est sur notre site olympique parce que nous, on a des épreuves qui commencent très tôt le matin. Donc, on ne peut pas avoir une heure de transport pour y aller, voilà, avec le mauvais temps, ça peut décaler la course. Donc, nous, Albertville, on était sur le site à Méribel, on était hors village olympique. Et à Nagano, la même chose. Donc, il y a Calais-la-Meur où on était un peu plus dans le village. Donc là, on a eu un petit peu plus le vécu. Mais non, honnête, si je crois qu'à Méribel, j'avais vu France-États-Unis en hockey. Parce que la patinoire était à Méribel. Et puis, non, la meilleure accréditation, le mieux pour voir les Jeux, c'est journaliste. Parce qu'on a toujours, tu peux aller voir tout ce que tu veux. C'est, athlète, c'est pas la meilleure accréditation.
Antoine, toi, tu as vécu deux Jeux Olympiques. Comment tu les as vécus au village, à côté? Comment c'était aussi?
Ouais, moi, c'est un peu pareil. En fait, je pense qu'il y a... Il y a deux catégories d'athlètes. Il y a ceux qui sont au jeu pour aller chercher des médailles, pour faire la course. Et là, on est vraiment focalisé sur notre course. Enfin, faut pas se disperser. On est dedans. Et voilà, il faut être concentré. Puis après, c'est vrai qu'il y a les athlètes qui sont là pour, qui savent qu'ils sont, ils sont pas tellement là pour jouer. Enfin, ils savent qu'ils joueront pas de toute façon de médailles. Donc, qui peuvent peut-être profiter un peu plus, aller voir d'autres épreuves. Ils sont plus là pour, dans l'ambiance des Jeux Olympiques. Que pour voilà, ils sont un peu moins concentrés. C'est pas la course de leur vie au niveau résultat podium quoi. Et moi donc du coup j'étais concentré sur ma course, sur mes jeux à moi et sur donc c'est vrai que j'ai pas en fait j'ai fait Turin et Sauteleck. À Turin il y avait un mini village olympique à Sestrières où il y avait des fondeurs, il y avait d'autres disciplines, c'était sympa. Par contre, à Sauteleck, on était sur le site du ski alpin. On était dans une espèce de petit hameau de maison entre skieurs alpins, hommes et dames. Donc, on était entre nous dans des chalets. Donc, on était à part. Et en fait, j'ai eu la chance de... Donc, à Sestrières, à Turin, je n'ai pas mis les pieds à Turin. Par contre, après, en fait, il y a eu une semaine entre... J'ai fait le Super G à Turin. Donc, pendant la semaine, j'ai pu aller voir une épreuve de biathlon et... J'ai pu aller voir une ou deux, enfin ouais, du biathlon. Je suis allé voir une fois du biathlon à Turin, c'était pas loin. Et puis à Sauteleck, avant de partir, on a passé un ou deux jours au village olympique, donc j'ai pu aller voir un match de hockey. J'étais au snowboard, j'avais vu le parallèle avec Karine Ruby et Isabelle Blanc. Donc ça, c'était un grand souvenir de spectateur. Donc voilà. Et puis après, j'ai eu la chance de participer à Vancouver avec France Télévisions. Donc là, j'ai fait un concurrent, désolé. Donc là, j'ai pu faire, j'ai pu profiter différemment justement des Jeux, aller voir d'autres épreuves. Et j'avais été invité aux Jeux de Londres par le Comité Olympique français pendant 2-3 jours. Et là, du coup, j'y suis allé en spectateur touriste. J'ai vu de la natation, j'ai vu de l'escrime. Et c'est vrai que c'est chouette, c'est différent. On vit les Jeux différemment. Mais quand on est athlète pour aller chercher des médailles, c'est vrai qu'on est concentré sur notre truc, quoi.
Quand on a eu plusieurs médailles, une ou plusieurs médailles, qu'on a tous les projecteurs projetés sur soi, comment ça se passe derrière? Est-ce qu'on est sollicité énormément? Comment on gère cet après-Jeux Olympiques? Vous disiez, c'est en plein milieu de la saison, donc est-ce qu'on retourne tout de suite se concentrer sur les épreuves suivantes ou est-ce qu'on a quand même le temps d'en profiter, de faire la tournée des popotes, comme on dit? Franck?
Plusieurs réponses. D'abord sur le coup, de toute façon, on n'en profite que très peu, puisque en général, moins d'une semaine après, on est déjà au départ d'un nouveau portillon et d'une nouvelle course. Donc ça te remet vite les pieds sur terre et tu te dis bon, c'était super, c'était génial, mais maintenant c'est un autre jour et il faut se remettre en question et repartir. Donc très très peu d'appréciation dans la saison en cours. Après, j'ai vécu des moments qui étaient très, très difficiles à supporter après Calgary, parce que tu te retrouves avec une pression sur les épaules. J'ai souvent employé le mot de chape de plomb, parce que ça te tombe sur le dos, sur le râble, et puis ben, tu n'as pas forcément les épaules pour y répondre. Hein. On a réussi un titre olympique, on a réussi des médailles, on réussit des courses, mais ce n'est pas tous les jours. Et donc, il y a des moments où tu faiblis. Et donc, c'était très, très dur à supporter. Et puis, après Albertville, le discours a changé, ma tête a changé. Et au contraire, j'étais extrêmement très heureux, finalement, de cette médaille et de pouvoir la partager, d'avoir le temps d'expliquer ce qui s'était passé, de partager tout simplement ce moment avec les autres. Donc ça a été Bah, je suis devenu un bon client, un bon commentateur, tout ça grâce à ce moment-là. Donc, ça m'a amené vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai vraiment vécu les deux phénomènes. Une fois, c'est tout noir et une fois, c'était tout blanc. Donc, c'était vraiment chouette. Et aujourd'hui, ça doit faire partie des choses qu'on doit apprendre aux jeunes. C'est que cette relation média, ce regard qu'on peut avoir, il faut qu'il fasse partie du jeu et qu'on soit capable de le maîtriser. C'est vraiment un moment qui fait partie de la vie d'un athlète et il n'y a pas de raison d'y échapper et ça se prépare. Voilà, c'était la seule leçon que j'ai retenue de Calgary finalement. Et sur Albertville, ça s'est très bien passé.
Flo, comment toi tu as vécu l'après-jeu?
Ouais, alors moi, après Albertville, je trouvais qu'il y avait une super ambiance justement avec Franck, Carole, Edgar aussi qui menait un peu le tambour battant, qui a aussi attiré pas mal de lumière sur lui, les filles du biathlon. Moi, je l'ai bien vécu et c'est vrai que comme de toute façon, c'est au milieu de la saison, les fêtes, c'est plutôt plus tard. Mais voilà, c'était aussi le début de ma carrière. Moi, ça ne m'a pas affolé au niveau des médias. Voilà, moi j'avais une petite médaille de bronze au combiné, donc c'était pas non plus la médaille la plus lumineuse, donc c'était assez tranquille. Et puis moi avec les médias c'était assez j'étais à l'aise, donc voilà, ça m'a pas posé de problème. Et puis Nagano, je savais que comme avec l'expérience aussi, hein, comme Franck, j'ai vraiment profité du moment. En revanche, sur le podium par exemple, parce qu'aussi bien sur le podium à Albertville, j'ai pas du tout réalisé. Et c'est deux jours plus tard, quand j'ai vu Carole Merle monter sur le podium et que j'étais dans le public et je la vois monter sur le podium et je dis oh, « mais c'est trop bien quoi, elle monte sur le podium, elle est championne olympique ». Et en fait, il y a l'entraîneur à côté qui me dit « mais si, Flo, il y a deux jours, c'était toi qui étais dessus ». Je dis « ah bah ouais, c'est vrai ». Donc là, par contre, à Nagano, le podium, j'en ai vraiment profité avec beaucoup d'émotion. Et derrière, derrière, je savais que ça allait m'ouvrir un peu des portes Voilà, je ne me suis pas dit, ça y est, tu es arrivé et puis ta vie va changer, quoi. Je savais que j'allais rester quand même les pieds sur terre, que j'aimais le ski, que j'aime toujours le ski, que je n'allais pas quitter mes montagnes comme ça. Et donc voilà, et je suis toujours pas loin des montagnes parce que j'aime toujours le ski.
Mais j'imagine qu'Antoine, c'est pareil, on voit plein de skis derrière lui dans son showroom.
Fabrique
même.
Ouais, les fabriques. Enfin, je les fais.
Et... Ça, c'est aussi une façon de vivre l'après-jeu, parce que j'imagine que peut-être sans médaille d'or, tu n'aurais pas créé une marque de ski. Peut-être que si, mais peut-être que ça a accéléré aussi les choses.
C'est ce que je dis souvent, c'est que après, je ne saurais pas ce qu'aurait été ma vie sans cette médaille d'or, mais je pense que, comme disait Flo tout à l'heure, elle a certainement changé ce que ma vie aurait été sans. Et c'est clair, ça m'a ouvert plein de portes. Par contre, comme disait Flo, faut quand même faire le job, parce que sinon la porte on la prend contre la figure ou ça dure en tout cas pas longtemps. Et puis ça permet de rencontrer plein de gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. Ça permet de faire plein de choses qu'on n'aurait jamais fait. Et je serais pas là aujourd'hui à discuter avec vous si je savais pas gagner cette médaille d'or. Donc c'est vrai que ça change plein de choses. Et après, moi, c'est un peu comme. Enfin, je suis aussi passé par finalement plusieurs états après la médaille de Turin. Moi, j'en ai eu qu'une. J'ai eu que celle-là, une médaille d'or. Et ce que je pense, c'est quelque chose qui nous tombe un peu dessus, qui nous tombe sur la tête. Je pense qu'on peut pas vraiment y être préparé. On peut pas. C'est un truc qui est un peu inimaginable aussi. Ça a été par moments un peu, pas un raz-de-marée, mais ouais, ça a été. J'ai eu des moments aussi un peu, des moments incroyables, euphoriques, et des moments compliqués. Enfin, faut le dire. Et c'est vrai que j'avais vécu pas procuration, mais quand Jean-Luc a gagné, donc Cabou a gagné sa médaille d'or à Nagano 8 ans avant. Moi, j'étais j'étais le petit jeune de l'équipe. J'avais vécu ça à la télé parce que j'étais pas qualifié pour Nagano. Je m'étais levé plusieurs nuits de suite pour le voir gagner cette course au final. Et je me souviens quand il était revenu en stage avec nous. Des fois, on voyait qu'il disait c'est génial, mais c'est pas tous les jours facile. Il y a aussi des choses à gérer. Il y a un peu de pression. Il y a des médias. Il y a des choses à faire. Et moi, on se disait, il rigole, c'est quand même. Il est champion olympique, de quoi il se plaint. Enfin, après coup, 8 ans après, je me suis dit, maintenant, je me rends compte de ce que c'est. Et c'est quelque chose, on a beau expliquer, tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est vrai que c'est difficilement imaginable. Et enfin, le jour où j'ai gagné la course, c'est comme si, dans le bon sens du terme, le ciel m'était tombé sur la tête. C'est, enfin, du jour où, même si on se dit j'ai envie de gagner, j'en rêve, je rêve d'être champion olympique, etc., on n'imagine pas derrière ce qui va arriver, quoi. Moi, j'avais pas de souci avec les, je pense pas, j'ai pas de souci avec les médias, répondre à des interviews, enfin, c'était pas un problème pour moi. Mais là, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Moi, j'ai jamais fait de médaille au championnat du monde, mais j'ai gagné quelques coupes du monde avant. Mais là, les médias à côté, c'est rien du tout, quoi. Alors que là, c'est vraiment tous les médias d'un coup, des médias, des journalistes qu'on a l'habitude de voir, donc. Et puis d'autres qu'on n'a jamais vus, qu'on ne connaît pas, des médias dont on n'a pas l'habitude, des magazines un peu, entre guillemets, des magazines spéciaux qu'on ne voit jamais. Et puis tout d'un coup, des gens qui viennent dans votre village, questionner, interviewer des amis, de la famille, des proches, pour savoir un peu en savoir plus sur votre vie d'avant, c'était qui ta copine, c'était qui Simach. Et là, on a l'impression que... Il y a des choses qui peuvent nous échapper. Enfin, il y a des choses, et ça, il y a eu un moment, j'ai eu un peu peur de ça. C'est vrai que c'est pas une pression médiatique, mais de toute cette nouvelle, toutes ces nouvelles personnes qui tout d'un coup s'intéressent à vous, à votre vie, et pas qu'au sport et qu'au ski. C'est vrai que c'est un peu spécial. Et c'est vrai que moi, il y a eu quelques jours après les Jeux où, en fait, je suis rentré des Jeux. En fait, donc la descente, c'était le deuxième jour. Je suis resté une semaine là-bas pour courir le Super G et je suis rentré donc assez rapidement après le Super G. Donc, il restait une semaine de Jeux Olympiques. Mais en fait, je suis rentré pour aller faire un stage d'entraînement avec mes copains d'équipe à Pilar, en Italie, parce que mon coach, Mauro Cornaz, était là-bas. Donc, c'est vrai qu'on est vite retombe vite sur les pieds sur terre parce qu'il faut s'entraîner. Je sentais quand même que dans le village, mon village natal, il y avait quelque chose qui se passait. Il y a eu une période, en fait, pendant une semaine ou deux, j'étais chez moi, mais je me cachais plus ou moins. Je n'osais pas sortir parce qu'on est, on a tout d'un coup, on a tout un tas de gens. Ah, Deneria, t'es là, t'es pas au ski. Enfin, on veut aller faire des courses pour acheter à manger comme on faisait avant, acheter de la salade et des tomates pour manger. Et tout d'un coup, c'est pas l'émeute, mais presque dans le supermarché. Enfin, c'est un peu fou, quoi. Et il y a une période où presque il y a un moment, je n'osais pas sortir de chez moi. J'allais voir mes parents. Je garais la voiture un peu, je cachais la voiture pour pas qu'on voit que j'étais chez eux. Enfin, c'était hyper bizarre, quoi. Il y a eu des moments un peu spéciaux.
J'imagine qu'après, il y a quand même une fierté qui revient, qui reprend le dessus au fur et à mesure.
Oui, et puis on a fait le retour officiel de la médaille 3 semaines après à Morillon. Enfin, Morillon, c'est un village à l'époque, il y avait 550 habitants. 600... Et ce soir-là, il y a eu 14 000 personnes qui sont venues de l'autre bout de la France, de Saint-Étienne, des gens qui ont traversé la France pour vivre ce moment-là, cette nuit-là. Et ça, c'est assez incroyable de se rendre compte de tout ce qui ça fait vivre aux gens autour. C'est des moments incroyables, quoi. Et c'est là qu'on se rend compte que ça dépasse largement le cadre de notre discipline, de notre sport, et que ça dépasse tout un tas de choses. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments plus ou moins faciles à gérer. Ouais.
Je veux bien rebondir là-dessus, si tu veux. C'est vrai que 30 ans après, tu as les gens qui te disent « Je m'en rappelle quand tu as gagné, j'étais à tel endroit, je faisais telle chose et j'étais habillé de telle manière et j'étais avec telle et telle personne. » Ça, c'est unique des Jeux Olympiques et des moments sportifs, je crois. Je le vis encore tous les jours avec des gens qui passent, qui sont là, qui ont envie de me voir pour me dire « Voilà, ce moment-là, je m'en souviens, je faisais ci, je faisais ça. » C'est extraordinaire. C'est vraiment extra.
C'est un partage qui est très agréable, j'imagine. Et même, comme on a l'habitude de dire, hein, une médaille olympique, c'est pour la vie. Tu dis, aujourd'hui, on continue à t'en parler. Vous continuez à être dans les montagnes, tous les trois. On sent cet attachement aussi. Hein. C'est vrai, Antoine, on parlait de ta marque de ski. Toi, Franck, au CESI, tu as plusieurs magasins de sport, etc. Flo, toi, tu continues à commenter le ski pour Eurosport. En même temps, tu donnes des conférences. Voilà, on sent votre envie aussi de partager, que ce soit juste avec des personnes qui viennent vous voir au magasin, qui viennent vous croiser dans la rue ou donner son avis lors des conférences. Et j'imagine la fierté que vous devez toujours ressentir. Avant de vous quitter, on finit toujours sur cette question rituelle. Parce qu'on aime bien se garder en tête un souvenir, une image. Quelle est l'image que vous gardez, si vous devez choisir une image, des Jeux Olympiques? Flo. C'est dur comme question.
Ouais, c'est dur. Moi, j'en ai plein des images. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que la cérémonie d'ouverture des Jeux d'Albertville, je crois que c'est quand même un moment incroyable. Et puis après, oui, moi, je l'ai déjà dit, mais la médaille d'Antoine, quelques années après, c'était incroyable. Et puis, en parallèle de le même jour que moi, il y a eu la médaille le doublé Fabrice Guy et Sylvain Guillaume en combiné nordique, donc sur la montagne d'à côté. Et entre les deux, enfin avant mon slalom, moi j'ai regardé cette médaille et je crois qu'il y a un esprit équipe de France olympique et une énergie particulière quand on a la médaille des autres. En fait, ça t'aide à avoir ta médaille. Et moi, je crois que ça m'a aidé à avoir ma médaille d'Albertville le lendemain ou l'après-midi.
Antoine, une image.
Elle en a donné deux ou trois, Flo. Donc.
Allez, on te laisse.
une image en tant que spectateur qui m'a marqué. En tout cas, sport d'hiver et spectateur. Moi, c'est la médaille de Franck. Même si j'étais pas d'Albertville, j'étais pas dans l'air d'arriver à Val d'Isère, mais j'étais. Comme je disais, j'avais 16 ans, je commençais à comprendre que j'avais un petit, enfin, je pouvais faire quelque chose en ski. Enfin, c'est un moment qui m'a fait rêver, qui m'a donné des frissons et qui m'a. En plus, c'était les Jeux d'Albertville, c'était les Jeux à la maison. Enfin, moi, j'étais à ce moment-là, j'étais ado, j'avais 16 ans. Ça nous a fait rêver, quoi. Et c'est aussi ça quand on dit, enfin, les Jeux Olympiques, ça peut vraiment faire rêver des jeunes, ça peut créer des vocations. Et moi, clairement. Enfin, puis il a fait des podiums avec Müller et Zurbriggen. Moi, c'était mes idoles. Ils étaient en poster dans ma chambre. Donc, voilà, ces images-là, moi, ça m'a vraiment fait rêver et donné envie d'essayer de faire pareil. Et puis après, en tant qu'acteur, c'est le moment où je me retourne et que je me rends compte que j'ai gagné dans l'air d'arriver. Enfin, il y a des moments forts, il y en a plein, mais le moment où je passe la ligne, je me retourne et je vois un champion olympique, là, c'est un moment incroyable, quoi. C'est le moment où on réalise qu'on a réussi à le faire. C'est des moments qu'on peut pas oublier, quoi. C'est hyper marquant. Mais bon, il y a le podium, l'hymne, enfin, il y a plein de trucs. Mais le moment où on réalise qu'on l'a fait, c'est incroyable.
Et Franck, pour finir, une image.
Les images, elles sont fortes et il y en a bien sûr énormément. La cérémonie d'ouverture d'Albertville était un moment magique, vraiment. Donc ça marque. Après, le moment personnel, c'est quand j'arrive dans l'air d'arrivée de la face et que je vois tout le monde lever les bras. Et puis, je tombe nez à nez avec Lucho qui était là. Donc,
Luc Alphand, ouais.
Ouais, Luc était là. Et voilà, il a un sourire qui est tellement fort que voilà, on était bidonnés. Et puis après, c'est en tant que spectateur. J'ai eu la chance de commenter à la fois Jean-Luc Crétier en 98, champion olympique, et Antoine à Turin, 2006. Donc voilà, je porte un peu chance finalement, non?
Tu ne veux pas revenir aux commentaires?
Oui, tu commences là, dans un mois.
Je cherche une place, vous avez tous compris. Sinon, après, j'ai rêvé tout gamin d'être champion olympique et je ne le regrette pas. J'ai vu des Jean-Claude Killy, j'ai vu des gens gagner et réussir leur après-carrière. Et donc... Le fait qu'on soit là aujourd'hui, quelques années après nos succès, montre qu'on est un peu sur cette voie-là aussi. Donc, ces moments-là vous marquent à vie. Mais c'est, tout n'est pas écrit. Il reste quand même, malgré tout, à le travailler, à se... Rien n'est jamais acquis, hein, de toute façon, vous le savez bien. Voilà, mes moments forts olympiques, c'est ceux-là.
Merci à tous les trois pour ces moments partagés, ces souvenirs olympiques dans ce podcast Olympic Legend. C'était un vrai plaisir d'échanger, de vous entendre vous remémorer ces moments forts de votre carrière. Des moments forts, j'espère qu'on va en vivre sur Eurosport du 4 au 20 février avec les Jeux Olympiques qui arrivent à grands pas. Je vous souhaite le meilleur et je nous souhaite le plein de médailles. Salut.
Salut.
Salut à tous.
Salut, au revoir.
Thank you. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.